Deutsche Welle Allemagne Magazine.
Je m'appelle Alfred Grosser, je suis ancien professeur à Sciences Po, je m'occupe beaucoup d'Allemagne, j'y vais beaucoup et je vais faire l'interview maintenant.
Et voilà, le niveau sonore est réglé, l'interviewé s'est présenté. Il ne me reste plus qu'à vous dire qu'en plus d'être ancien professeur, Alfred Grosser est aussi politologue, sociologue et historien, français d'origine allemande, et qu'il va nous parler, entre autres, du centenaire de la Première Guerre mondiale. En deuxième partie d'émission, un reportage. Nous partirons à la découverte de Berlin avec quelqu'un qui dormait il y a peu encore dans la rue. C'est Constance von Kötze au micro. Guten Tag, bonjour à tous. Deux coups de revolver et c'est l'étincelle qui met le feu aux poudres. En assassinant le 28 juin 1914 l'héritier d'Autriche et sa femme, le jeune nationaliste serbe Gavrilo Princip ne se doutait pas qu'il allait déclencher une guerre mondiale. L'attentat de Sarajevo va pourtant entraîner les grandes puissances à la tête desquelles l'Allemagne et la France dans une surenchère d'accusations, de menaces, d'ultimatums. Et en un mois, la paix vole en éclats. En février prochain, Alfred Grosser soufflera lui ses 90 ans. Il n'a pas connu la Première Guerre, mais la Seconde, puisqu'il est né en Allemagne en 1925. Issu d'une famille d'origine juive, il se réfugie avec les siens en France dès l'arrivée au pouvoir d'Adolf Hitler et des nazis en 1933. Ancien professeur à l'Institut d'études politiques de Paris, ses travaux et son enseignement ont exercé une grande influence, notamment sur la réconciliation et la coopération franco-allemande. La semaine prochaine, il tiendra un discours à l'occasion du centenaire de la Première Guerre devant les députés du Bundestag, la chambre basse du Parlement allemand. Et nous l'avons rencontré il y a quelques semaines dans son appartement parisien. Et il se souvient d'abord de ses cours à l'école sur la Première Guerre.
Tout à fait. Le Malé Isaac, le manuel d'avant-guerre, donné en annexe au chapitre sur 14, la traduction d'un manuel allemand correspondant. Pour que les élèves, c'est admirable, pour que les élèves aient aussi l'autre point de vue. Mais je trouve surtout qu'on exagère beaucoup, je vais être amené à parler beaucoup de 14, etc. Mais en disant, c'est en France qu'on donne des millions d'États, de l'argent du contribuable, alors qu'on ferme les instituts culturels, les consulats, etc., ce qui est incroyable. Et d'autre part, on ne faut pas confondre 14 et 39, et c'est pour ça que j'ai toujours la cathédrale de Reims de Gaulle Adenauer. Même la poignée de main remarquable de Mitterrand et de Kohl à Douaumont, plus Nicolas Sarkozy et la chancelière à 11 novembre, tout ça c'est la Première Guerre mondiale. Pour la Seconde Guerre, il a fallu se rencontrer à Dachau, où Français et Allemands anti-hitlériens ont souffert ensemble. Et c'est d'ailleurs très nettement dans la Constitution française, dans le préambule de 1946, qui est toujours valable, la première fois, c'est le lendemain de la victoire, emportée sur les régimes qui ont tenté de dégrader la personne humaine. Sur les régimes. En 19, on aurait écrit sur les nations ou sur les peuples. Et ça n'a pas été une guerre franco-allemande, ça a été une guerre anti-hitlérienne. C'est pour ça que 14-18 me paraît beaucoup trop célébré. Du côté français, si j'étais méchant, ce que je ne dis pas, je dirais on ne fêtera pas à juin 40. On fête constamment les victoires. Mais on essaye d'inciter les Allemands à commémorer 14-18 avec nous, jusqu'où, je ne sais pas, tout de même pas le traité de Versailles, qui a été effectivement un diktat, puisqu'il n'a pas été négocié avec les vaincus, mais entre vainqueurs.
Si vous pensez que 14-18 est peut-être surcélébré en France, est-ce qu'à l'inverse, ce n'est pas sous-célébré en Allemagne ?
Non, parce qu'en Allemagne, la catastrophe totale a été la deuxième, pas la première guerre. Les villes allemandes ont été détruites pendant la Seconde Guerre, pas pendant la Première. Et en France, il est tout à fait normal qu'il y ait, si vous regardez les monuments des petits villages, la liste est interminable. La liste 39-45 est courte. Paris n'a absolument pas été détruite et les Parisiens ne connaissent pas leur bonheur que leur ville n'ait jamais été détruite. On commence enfin à se rendre compte que ce qui est fondamental dans cette Première Guerre mondiale, c'est la souffrance des soldats, exactement la même dans les deux pays. Et aujourd'hui, si on parle de 14-18, il faudrait que toutes les églises protestantes et catholiques des deux pays fassent repentance. Ils ont encouragé, ils ont chanté des tédéum sur le massacre des chrétiens français par les chrétiens allemands et réciproquement.
Que vous inspirent les relations franco-allemandes actuellement ?
Au point de vue social, ça va très bien. Il n'y a jamais eu autant de rencontres, de travail commun, de recherches communes, d'échanges. Ça, je pourrais parler pendant des heures pour montrer ce qui se fait. Au sommet, il ne se passe pas grand-chose. Il y a guère de propositions communes. Et j'espère qu'on fermera un peu moins de consulats français en Allemagne, un peu moins d'instituts français en Allemagne, puisque c'est une façon assez curieuse de célébrer les relations franco-allemandes. Et au niveau le plus élevé, on s'entend, on se rencontre, etc. Mais on ne peut pas dire qu'il pleuve des propositions communes.
C'était Alfred Grosser, spécialiste des relations franco-allemandes à l'occasion des 100 ans du début de la Première Guerre mondiale. J'en profite pour vous signaler que nous consacrerons à cette Première Guerre une série spéciale à partir du 31 juillet avec des témoignages, des reportages et des interviews. Si vous souhaitez nous laisser un message à ce sujet, surtout n'hésitez pas à nous envoyer un mail à français@dw.de. Direction Berlin à présent, où en comparaison des autres capitales européennes, il est assez rare de voir des gens dormir dans la rue. Et pourtant, selon les estimations du GBVO, les services sociaux berlinois, il y a environ 10 000 sans-abri dans la capitale. Le GBVO, qui célèbre cette année ses 20 ans d'existence, organise des visites guidées du Berlin social, celui que l'on ne trouve pas dans les guides touristiques classiques. Notre correspondante Audrey Parmentier a participé à l'une de ces visites avec Klaus Seilwinder, ancien sans domicile fixe.
Mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue dans ce qui a été mon logement pour un temps. C'était ma maison, mon hébergement, mon bunker.
On est en plein cœur de Mitte, le quartier chic de Berlin. Un parc avec une fontaine, des rangées d'arbres. Et juste à côté, le ministère des Affaires étrangères. C'est là que Klaus Seilwinder a vécu entre 2004 et 2006.
Pour un sans-abri, le bunker, c'est l'endroit où il entrepose les affaires qui sont nécessaires à sa survie. Son sac de couchage, son tapis de sol, des vêtements et des chaussures de rechange et ce qu'on n'a pas envie de transporter tous les jours avec soi. Quand on vit de la collecte de bouteilles consignées, on ne peut pas toujours tout emmener.
En Allemagne, les bouteilles sont consignées, 8 centimes pour celles en verre et 25 pour celles en plastique. Et pour récolter un peu d'argent, Klaus Seilwinder, comme de nombreux sans-abri, les a ramassées là où elles se trouvaient.
Ça, ce sont les poubelles optimales. Elles sont à la bonne hauteur. Dans certains quartiers, la ville veut se débarrasser de ceux qui ramassent les bouteilles consignées. Et elle a fait mettre les poubelles beaucoup plus haut. On peut donc jeter quelque chose dedans, mais impossible de récupérer quoi que ce soit. Voici l'instrument de travail indispensable, la lampe de poche qu'il faut toujours avoir avec soi. Parce qu'il n'y a pas seulement ces poubelles-là, les oranges, il y a aussi les poubelles noires et on ne voit pas ce qu'il y a au fond.
Autre source de revenus, les eurodateurs où il reste parfois quelques pièces de monnaie ou encore les WC publics.
Je venais faire ma toilette ici tous les matins. Les jours où il n'y avait personne, je prenais même le temps de me raser. Et en plus, je me faisais de l'argent. Ce n'est pas facile de faire fonctionner le robinet. Il n'y a pas de bouton. Je montrais aux touristes comment s'en servir. Et ils me donnaient les 50 centimes qu'ils avaient prévus au cas où les toilettes auraient été payantes. De là, je partais en direction de l'arrêt de métro, qui était aussi très important. Dans le métro, je regardais toujours s'il n'y avait pas un ticket encore valable, ce qui me permettait de prendre le S-Bahn et d'aller dans un centre d'accueil ou une soupe populaire. parce que toutes ces institutions ne sont pas au centre-ville, mais à la périphérie.
Ça a toujours été ainsi.
Harald Steinhausen est guide touristique.
Les sans-abri sont toujours dans le centre-ville, en général à des endroits clés de circulation comme les gares, les grandes places comme l'Alexanderplatz ou le Gendarmenmarkt, pour trouver de quoi manger, pour faire la manche. C'était déjà ainsi au XIXe siècle. Et les institutions qui les aident se trouvent en périphérie.
Parmi ces centres d'accueil, la maison Schöneweide, fondée en mars 2001 et refaite à neuf en 2008 dans le cadre d'un projet artistique. Depuis, les murs de la cour intérieure sont recouverts d'une immense peinture qui représente une jungle. Des lustres dorés sont suspendus dans l'entrée et toutes les chambres ont été repeintes en couleur avec l'aide des patients. Christoph Brenneis est le directeur de l'institution.
On s'occupe de 20 hommes alcooliques chroniques qui habitent ici et de 10 autres qui sont en colocation. On encadre aussi 4 anciens résidents dans leurs appartements. La spécificité de ce centre, c'est que les hommes qui habitent ici ont le droit de boire une certaine quantité d'alcool par jour. Nous leur proposons un toit, mais sans condition, si c'est mieux de participer à la vie de la maison pour construire une sorte de base sociale que la plupart n'ont plus depuis longtemps.
Cette base sociale s'articule autour de différentes activités, excursions, cinéma, jeux ou encore théâtre. Depuis la création de l'institution en 2001, 4 résidents ont réussi à devenir sobres, dont Klaus Zellwinder, qui a désormais son propre appartement.
Audrey Parmentier a visité Berlin avec un ancien sans domicile fixe. Si vous voulez réécouter ou recommander ce reportage, rien de plus simple. Il suffit d'aller sur notre site internet dw.de/français, dans la rubrique podcast ou médiathèque ou encore sur la page Allemagne. Quelques notes de musique pour finir. Bonne semaine à tous, à la prochaine et tschüss.
Du warst schon mal so weit. Wenn du lang genug zögerst, trifft jede Entscheidung die Zeit. Deine innere Stimme hast du selbst ausgegrenzt.